I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的母亲达家
正忙着做饭，正忙着
做饭，正忙
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50. On va poursuivre notre série d'émissions consacrées au pouvoir des mots, la poésie du djihad. Une émission préparée ce matin par Tiffaine de Rocchini, aussi Xavier Martinet, Audrey Rameau, Clément Salazar. La réalisation, c'est Charles Le Gargasson ce matin. Et la technique, c'est Alexandre Dang. Dans la culture arabe, une maxime affirme que la poésie constitue la mémoire des Arabes. Pourtant, si ces derniers appellent la période antérieure à Mahomet, le temps de l'ignorance, c'est une appellation injuste si l'on pense que la littérature orale préexistait. En effet, nous avons des traces de poésie pré-islamique qui remontent à la première moitié du 6e siècle. Quoi qu'il en soit, toute une génération de poètes ayant vécu à l'époque du prophète, les Muhadramoun, ceux qui ont vécu entre deux époques, ont établi les bases d'une poésie islamique qui aujourd'hui encore perdure, et notamment, bien sûr, dans les cercles djihadistes. Aujourd'hui, la poésie du djihad.
عز الإسلام لقد عاد حيوا يا قوم الأسادة وتعالوا نبني دولتنا ونعيد لدين الأمجاد
دماؤكم جسر إلى النصر أحمر وبوابة منها إلى الخلد يعبر
Ton sang est tel un pont écarlate, nous menant à la victoire, un passage vers l'éternité. Ton sang est un orage de détermination et de zèle, un feu qui consume nos ennemis, un feu qui purifie notre âme du doute et qui, demain, libérera Jérusalem.
Que ce soit ces combattants du groupe de l'État islamique qu'on entend à l'instant, ou en son temps, Oussama Ben Laden, qui avait écrit des vers célèbres, notamment celui datant de 1996, dans lequel il se faisait parler son fils Hamza, la poésie fait partie de la culture des djihadistes. On le sait peu, et pourtant, la poésie est présente partout dans la communication des groupes islamistes. On la trouve dans les vidéos propagande de l'État islamique, dans les communiqués d'Al-Qaïda, dans les nashids, ces hymnes chantés, très populaires parmi les militants, ou encore dans les sermons des prédicateurs. Oussama Ben Laden lui-même, on l'entendait à l'instant, a composé beaucoup de poèmes. Ces trois dernières décennies, plusieurs magazines de propagande islamiste ont régulièrement publié des poèmes vantant les vertus du djihad et les récompenses promises. On peut citer Sada El Malahim, le magazine d'Al-Qaïda au Yémen, ou encore Dabiq, celui de l'État islamique. Cet usage de la poésie à des fins poétiques et sociales est très ancien dans le monde arabe. Il remonte au temps pré-islamique. Par la suite, au 7e siècle, Mahomet commencera par rejeter les poètes avant de les accepter dans son entourage proche. Hassan ibn Thabet, le poète le plus connu de l'époque, surnommé le poète du prophète, célébrera alors la grandeur de l'islam. Aujourd'hui, les militants djihadistes mêlent des éléments de la poésie arabe classique, des poèmes contemporains en dialecte syrien et des sourates du Coran. Objectif: mobiliser les partisans, créer une mythologie, ou plus exactement s'insérer dans la mythologie et recruter de nouveaux combattants. Alors quelle place tient aujourd'hui cette poésie dans la rhétorique de Daesh? Quelle vision politique se dégage de ces poèmes? Que nous apprennent-ils de la cosmogonie, de l'assise culturelle de cette organisation djihadiste? En quoi sont-ils un puissant levier de légitimation auprès des populations locales et occidentales? Voilà toutes les questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Et pour ce faire, deux invités autour de cette table. D'abord Jean Lambert, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes ethnomusicologue, anthropologue, maître de conférences au Muséum d'Histoire Naturelle depuis une trentaine d'années. Maintenant, vous menez des recherches sur les sociétés, les musiques de tradition orale, notamment du côté du Yémen. On va en parler. Et puis à vos côtés, Philippe Joseph Salazar, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes rhétoricien, vous êtes philosophe, vous êtes notamment l'auteur de Paroles armées, comprendre et combattre la propagande terroriste, pour lequel vous avez obtenu le prix Bristol des Lumières. Vous êtes professeur à l'Université du Cap en Afrique du Sud. Vous avez reçu Philippe Joseph Salazar après les attentats du 13 novembre. On vous avait invité dans une émission qu'on avait titrée « Que nous veut Daesh », dans laquelle on avait tenté de comprendre ce que nous dit finalement l'organisation de l'État islamique. Pour comprendre, il faut évidemment se pencher sur les textes produits par les djihadistes. On peut penser aux communiqués de revendication, on peut penser à la fameuse revue d'Abik dont je parlais, mais il faut aussi peut-être s'intéresser à la poésie lue, la poésie écrite par les djihadistes. Hier matin, Scott Atrank, qui est un anthropologue américain, était l'invité de la matinale. Il s'est beaucoup intéressé à la pensée djihadiste. C'est l'un des conseillers de Barack Obama. Et il disait l'importance justement de s'intéresser à la poésie lue, produite par les djihadistes. Et il disait aussi son étonnement de voir que finalement les spécialistes de l'antiterrorisme ne lui prêtent quasiment aucun crédit. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ça m'inspire une certaine ironie, parce que je pense que son attitude est typiquement américaine. C'est-à-dire que dans l'analyse du débat politique aux États-Unis, on privilégie en général ce que nous appelons en rhétorique le logos, c'est-à-dire l'argumentation rationnelle. Et c'est bien tout le problème de ce que j'appellerais la dimension esthétique de la propagande du califat, qu'on peut appeler poétique. Une grande partie de la force de la propagande califale, un groupe État islamique comme il est nécessaire de le dire en France, se base à la fois sur des moyens de poétique, de rhétorique et d'esthétique. Et on peut dire ensemble que tout cela, il y a une poétique de la propagande califale, mais je ne pense pas que ce soit complètement ignoré en France.
Sur la question esthétique, c'est vrai que c'est important. Quand vous étiez venu, je me souviens que vous nous aviez expliqué que certains prêches d'Abou Bakr al-Baghdadi étaient très beaux. Je vous cite. Sur le coup, je ne vous cache pas, Philippe-Joseph Salazar, ouais, que j'étais un peu frappé, peut-être même choqué de vous entendre, tant il était évidemment difficile de trouver une quelconque beauté dans évidemment les drames qu'il est capable de provoquer. Et pourtant, il faut admettre le rôle de cet esthétisme dans le pouvoir d'attraction.
Par beauté, je crois qu'il faut revenir au sens même de cosmétique et de cosmos en grec. Ce qui est beau, c'est ce qui est capable de vous donner une vision ordonnée de l'univers et qui vous permet de porter un jugement de goût, comme on dit, sur la nature harmonieuse de l'univers. Les deux grands discours d'Al-Baghdadi que nous avons, l'un étant une homélie, l'autre étant une harangue guerrière, produisent ce genre de vision cosmique de la nature des relations humaines et des relations entre États. C'est pour cela que j'ai dit beauté. Mais esthétique, je vous rappelle le sens philosophique du terme, c'est la capacité de percevoir, c'est la sensation. L'esthésie, c'est la sensation. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut aussi prendre esthétique et la décliner en poétique, en rhétorique et en esthétique à la fois musicale et iconique. Employons ce terme un peu barbare.
Jean Lambert, évidemment, en tant qu'ethnomusicologue, cet esthétisme, vous y êtes sensible?
Oui, bien entendu. La poésie, bien sûr, chez les Arabes, depuis très longtemps, est un moyen privilégié d'expression. Donc on le voit dans les diverses modes d'expression des djihadistes aujourd'hui. Là, on a écouté un tout petit peu Oussama Ben Laden, d'un côté qui s'exprime dans une langue arabe extrêmement littéraire et qui est très belle, on peut le dire, hein. Et de l'autre côté des combattants qui chantent dans un dialecte local de bédouin de l'est de la Syrie. Donc c'est vraiment deux extrêmes d'expression, et dans les deux cas on sent bien que ce sont des discours qui portent, et alors naturellement ils le sont d'autant plus qu'ils sont portés par de la musique. Alors, ce qui n'était pas le cas de la poésie de Ben Laden, mais par contre c'est le cas de ces chants des combattants sur le terrain, mais c'est aussi surtout le cas des anachides, qui eux sont une forme relativement simplifiée, disons, de poésie classique, mais mise en musique à des fins, bien sûr, de propagande et de mobilisation.
Écoutons justement un anachide.
Elle a soufflé comme le vent fort. Elle a jailli comme une flamme lumineuse. Elle a soufflé comme le vent fort. Elle a jailli comme une flamme lumineuse. Elle est devenue comme la jeunesse déterminée. Elle s'est envolée comme le faucon fier. Elle est devenue comme la jeunesse déterminée. Elle s'est envolée comme le faucon fier. Sois la bienvenue, ma caravane. ma caravane de la sagesse.
Voilà donc un exemple d'Anachid sur le djihad. Alors le commentaire qu'il y a avec la vidéo qu'on a évidemment trouvée sur internet nous rappelle que le djihad n'est pas la guerre sainte. Le djihad, c'est être travailleur, endurer, c'est être patient, c'est atteindre les sommets et se contenter du meilleur. Restaurons la gloire de cette Oumma, lit-on sur le commentaire de la vidéo, avec en toile de fond, précisons-le, le drapeau de l'État islamique. C'est une vidéo qui compte quasiment, pas tout à fait, quasiment 1 million de vues. Il y a quelque chose, et là on l'entend très bien Jean Lambert, d'extrêmement entêtant dans cette anachide. Et d'ailleurs les travaux de Charles Hirschkin, qui est un anthropologue de Berkeley, montrent l'effet émotionnel et sensoriel de ces objets-là sur les gens. On oui. oublie de le dire, Jean Lambert.
Oui, tout à fait. Les mélodies sont très simples. Elles sont très adaptées aux paroles. On l'entendra dans une autre, peut-être. Il y a souvent une osmose très très étroite entre le maître poétique et le rythme musical, à tel point que dans certains cas, c'est exactement la même chose. Donc c'est volontairement un concentré d'expression. En même temps avec une langue, là en l'occurrence une langue qui est à la fois classique mais en même temps dont la syntaxe est très très simple, donc ce qui permet effectivement de faire des phrases très courtes et de toucher et de faire éclater des images poétiques très très rapidement, donc ça a un effet un peu de stupeur, quoi.
Philippe-Joseph Salazar, c'est évidemment l'attraction de la musique, c'est l'esthétique des mots, mais c'est aussi le sens de ces mots. Il y a un écho derrière tout ça, bien sûr.
Je voudrais faire trois remarques, parce que, comme a dit M. Lambert, il est question ici de l'image musicale. Mais pour comprendre l'image musicale, il faut revenir au statut de l'image dans l'esthétique arabo-musulmane. Mais d'abord, deux remarques. Les auditeurs ont remarqué qu'il n'y a pas d'instrument dans le nashid, et c'est un impératif rigoriste, si vous voulez, de l'intégrisme musulman, c'est qu'on n'utilise pas d'instrument. Il faut mettre en parallèle le refus de, si vous voulez, l'iconoclastie visuelle à une iconoclastie musicale. L'instrument est interdit. D'autre part, il est regrettable que la doublure du chant ait été faite par une voix de femme. Il aurait fallu utiliser une voix d'homme pour bien faire sentir la puissance du texte. Ce sont deux remarques préliminaires. La remarque de fond que je voudrais faire, c'est qu'on touche là au statut de l'image en islam et de la puissance énergique. Je vous rappelle qu'en latin, énergie et évidence, énergie en grec, évidence en latin, c'est le même terme. C'est la puissance évidentielle de l'image. Le Coran occupe une place assez spéciale dans la poétique arabo-musulmane. C'est une récitation pour commencer. Donc là, si vous voulez, le contenu vocal, plus que pas instrumental, mais vocal du Coran, est éminemment présent dans la pensée arabo-musulmane. Et bien des sourates ont pour titre des images très fortes, l'abeille par exemple. Ce qui n'est pas le cas des textes vétéraux et néo-testamentaires. Vous ne trouverez pas la division des évangiles en chapitres avec des titres imagés. Et un des problèmes qu'a eu dès le début l'islam, c'est que le texte sacré, récité, contient de la poésie. Or, la poésie, comme vous l'avez bien noté en introduction de cette émission, était liée à l'idolâtrie, c'est-à-dire au culte des images, ou bien des images vocales, ou des images, disons, orales ou écrites. Donc il a fallu, dans la tradition arabo-musulmane, incorporer la poésie du Coran dans la théologie. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est le prochain point d'analyse, c'est la raison pour laquelle on trouve dans la culture arabo-musulmane et la philosophie arabo-musulmane ou la théologie arabo-musulmane, on trouve une prééminence de l'image, l'image servant dans le raisonnement analogique à formuler des fatwas, c'est-à-dire des avis juridiques. Une image dans la traduction gréco-romaine dont nous sortons, une image n'est pas un argument. Mais dans cette tradition-là, à cause de la fondation coranique, L'image est un argument et permet de fabriquer par l'analogie, qui est un raisonnement logique, fabriquer des fatwas, tout simplement. Donc le statut de l'image est extrêmement important, et ce statut de l'image a été ensuite refabriqué par la falsafa, qui est la philosophie musulmane, transmise et reprise des Grecs, où l'image, ressortie si vous voulez, de la poétique d'Aristote, est introduite dans le canon, dans l'organon logique. On perd souvent de vue le fait que dans la falsafa, la pensée philosophique arabo-musulmane, contrairement à la pensée occidentale, la rhétorique et la poétique sont des formes de la dialectique et de l'argumentation scientifique. C'est la raison pour laquelle le califat, le groupe État islamique, comme il faut le dire en France, n'est-ce pas, parle de méthodologie.
Parce que dans votre livre, Paroles armées, vous vous tenez à ce qu'on utilise le mot califat, puisque les djihadistes le revendique, il faut appeler les choses comme ils les désignent eux.
Je pense, pour mieux...
C'est votre position.
Oui, pour mieux se mouler, se couler dans... Mais ce que je voulais faire, donc, c'était pour les auditeurs, rappeler quel est le statut de l'image dans la tradition arabo-musulmane.
Sur le statut de l'image, sur peut-être la valeur de l'analogie comme argument, Jean Lambert, et puis je fais une toute petite incise, parce que vous rappeliez cette question du statut de la poésie dans le Coran. Dans le Coran, effectivement, les poètes sont ceux qui disent ce qu'ils ne font pas. Ils inventent, ils sont la proie des rêves et sont suivis par les hommes égarés, alors que le prophète, lui, est détenteur, d'une parole véridique. Dans le Coran, on peut lire la chose suivante: « Nous n'avons point enseigné à Mohammed l'art de la poésie, elle ne lui sied pas. » Jean Lambert, sur ce statut de l'image, sur cette analogie comme valeur d'argument.
Oui, je suis entièrement d'accord avec M. Salazar. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est que en même temps, il faut aussi tenir compte, disons, des conditions de la révélation qui font que, d'une certaine manière, si vous voulez, le prophète, non seulement, on l'entend explicitement rejeter les poètes, mais en réalité, il est bien évident qu'il était concurrent avec les poètes, surtout. Mmh. Et donc, c'est surtout à ce titre-là, je pense que, il y a eu peut-être à un certain moment un certain affrontement au moment de la révélation, mais bien vite on a vu que le prophète avait besoin des poètes, et donc il a recouru très vite à plusieurs grands poètes, en particulier un qui s'appelle Hassan ben Thabet, qui était lui-même en fait un poète de cour dans deux royaumes arabes du nord de l'Arabie, et donc lorsqu'il s'est converti à l'islam, ça a été le meilleur héros de l'islam en fait. Donc effectivement, il y a à la fois ce jeu sur le mimétisme de l'image et le fait que l'image puisse dire quelque chose de vrai ou pas, et finalement, comme vous le dites, probablement la théologie islamique l'a récupéré à sa manière, disons, à son profit, on peut dire.
Jean Lambert, qu'est-ce qu'on appelle des anachides? Qu'est-ce que ça recouvre comme type de réalité? Depuis quand cette tradition-là existe? Et de quoi il s'agit? Est-ce que c'est de la poésie récitée? Est-ce que c'est de la musique? Comment vous...
Alors d'abord, je voudrais, avant d'entrer dans ce sujet, je voudrais revenir sur la question de la voix et des instruments, parce que ça a été mentionné par Monsieur Salazar. C'est très important aussi. Le statut de la voix en islam, il est totalement légitime, parce que la voix a été créée par Dieu, comme l'être humain. Alors que les instruments ont été créés par les hommes.
Comme les images.
Oui, probablement, voilà. Et donc là, il y a sans doute, il y a un point nodal, disons, sur le plan théologique, mise à un second degré, disons, sans parler forcément de condamnation, mais disons, c'est mépriser de toute façon les instruments. Et d'un point de vue, bien sûr, religieux, c'est vraiment un truc qui est en plus et qui sert à rien, qui ne peut que brouiller le message.
Alors, il peut y avoir un paradoxe, et je vous donne tout de suite la parole. Écoutez, un théologien, un prédicateur saoudien, c'est le cheikh Mohamed Al-Arifi. Vous disiez la voix est totalement légitime parce que finalement, c'est d'un objet de Dieu, voilà. Un objet divin, ce qui n'est pas le cas de la musique. Voilà. Écoutez bien ce qu'il dit.
Ah, mais attention,
ce chèque.
quand elle est mélodisée.
Absolument,
aussi.
Écoutez ce qu'elle dit.
À propos de la musique, il y a beaucoup de preuves qui montrent qu'elle est haram. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, nous n'avons plus besoin de musique. Même dans les mariages, grâce aux anachides. Dans les anachides, les voix ont remplacé les instruments qui sont haram, comme le piano ou la flûte. Vous n'avez plus besoin d'instruments de musique puisqu'il y a aussi beaucoup de sons que vous pouvez faire grâce à votre ordinateur.
Alors, on peut faire aussi des sons par ordinateur, pardon, mais l'ordinateur, oui. C'est quand même un objet créé par l'homme. Hein.
Oui, tout à fait. Je crois que ça s'éloigne un peu de la question de la propagande de l'État islamique par la dimension esthétique. Pour rebondir sur ce qu'a dit M. Lambert, par la voix, c'est le corps humain qui est mis en scène tout de même. Une chose très frappante des nachides de l'État califal, c'est la présence de ces corps humains masculins qui paradent sur les écrans et des voix qui scandent de très longues vidéos, comme vous le savez, car il faut que les auditeurs se rendent compte que les vidéos produites par Hayat Media Center du califat sont de véritables documentaires. Il ne s'agit pas d'un égorgement, d'un chant, ce sont des constructions rhétoriques méthodiques pour faire passer des messages à chaque fois différents. Donc la voix permet paradoxalement au corps comme élément de séduction, d'attraction, de combat d'apparaître. Et d'autre part, je voudrais signaler également que le philosophe auquel se réfère constamment le califat dans ses textes, c'est Ibn Taymiyyah du XIIIe siècle, qui est l'auteur d'un texte fondamental sur l'analogie, et sur la manière d'utiliser l'analogie, c'est-à-dire une image, un fait concret rapporté, qui est un fait imagé, qui est rapporté à un dit ou geste du prophète, et d'où on peut tirer une conclusion logique sur une conduite de tous les jours, en réalité.
Et vous dites que l'analogie détermine le licite.
Oui, c'est lié à d'autres textes. Le licite, c'est ce qui est juste de faire ou de ne pas faire. Si on emploie justice en français, ça devient très compliqué parce que justice veut dire un peu tout et n'importe quoi. Donc, la polysémie est trop large pour des choses poliment. Donc, licite est beaucoup plus... Le licite a trait à la loi, puisqu'une fatwa, qui est le résultat d'un raisonnement analogique à partir d'une image, permet de déterminer un comportement qui est légalement correct, puisque, pardon, l'analogie est une des quatre formes du raisonnement juridique. Donc, ce sont les deux petites choses que je voulais dire.
Philippe Joseph Salazar, comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette forme rhétorique dont on a bien compris que finalement dans notre culture, hérité des Grecs, eh bien on a bien du mal finalement à s'adapter à tout ça. Que peuvent faire finalement nos responsables politiques face à cette culture qu'on a tant de mal à comprendre ? Est-ce que par exemple, il faudrait, Philippe Joseph Salazar, faire de la poésie anti-djihad ?
Je ne pense pas qu'on ait du mal à la comprendre, je pense qu'on a du mal même à la percevoir. Ce qui me frappe à analyser les discours et les documents produits par le califat, c'est la puissance d'organisation rhétorique de ces textes. Ce sont des textes qui mettent en scène à la fois une élocution extrêmement choisie et qui souvent se rapproche de la grande diction de la récitation coranique. Ce sont des cantillations très très belles, même dans des bulletins de nouvelles annonçant une attaque, n'est-ce pas ? C'est l'effort fait par le califat pour construire une immense médiathèque qui ne disparaîtra jamais. Tout ce que le califat a produit ne pourra pas disparaître puisque c'est sur Internet. C'est la première grande idéologie depuis Internet, n'est-ce pas, qui se sert de cet instrument. Et ce qu'on appelle en rhétorique la memoria, c'est-à-dire la capacité d'emmagasiner et de garder. Même si le califat disparaît, il continuera à inspirer par ses chants, par ses textes et sa poétique. Ça ne disparaîtra jamais. C'est l'histoire de Frankenstein, n'est-ce pas ? Nous avons produit un monstre qui se retourne contre nous. Et troisièmement, qui est un autre grand élément de toute formation rhétorique, c'est la capacité des différents bureaux du califat d'organiser, de disposer les arguments. Pour résumer cela, surtout pour vos éditeurs qui ne sont pas spécialistes de rhétorique, un argument rhétorique fonctionne à la fois sur le logos, c'est-à-dire l'argumentation logique, sur le pathos, c'est-à-dire l'appel aux émotions, et sur l'éthos, qui est l'appel à des effets d'autorité. Ce qui me frappe, écoutez, j'étais place de la République dimanche dernier, j'ai été surpris de voir à quel point nous sommes devenus incapables de faire de grandes constructions rhétoriques, surtout dans ce que j'appellerais les cérémonies d'État, et que le califat, au contraire, est capable de le faire. Une des grandes ironies, n'est-ce pas, c'est que, véritablement, le califat est devenu l'héritier d'Aristote. Je vais choquer beaucoup de mes collègues, mais nous avons perdu cette capacité, parce que nous pensons que, de manière naturelle, nous avons à notre disposition toutes les armes de la rhétorique. C'est une réponse qui probablement vous déplaît, mais nous devons revenir à nos sources oratoires.
متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد متفائل.
Alors ça, Jean Lambert, c'est un anachide qui est intitulé « Du temps de l'inquiétude » dont vous nous avez proposé, dont vous nous avez envoyé une traduction, le temps de l'inquiétude. D'ailleurs, c'est aussi le temps de l'optimiste, oui, parce que c'est aussi le temps de la vengeance, le temps où les musulmans combattent les juifs. C'est ce qu'on entend dans cet anachide.
Oui, tout à fait, oui. Oui, alors c'est un anachide, parce que anachide c'est le mot pluriel, c'est la forme plurielle.
D'accord.
Donc je dirais anachide, ça serait plus juste. C'est un anachide qui date un petit peu puisqu'il est d'Al-Qaïda et il a été composé par un poète du Yémen. Il est mentionné par Elizabeth Kendall dans un très bon article publié sur la propagande d'Al-Qaïda. Il commence, il y a le leitmotiv qui revient, optimiste, alors que l'inquiétude est à l'horizon, optimiste malgré les chaînes qui m'en serrent, malgré la braise du fouet et la cruauté des bourreaux. Donc il y a, une incitation morale à soutenir le moral des combattants. Un autre élément très important, c'est ce qu'on entendait tout à l'heure d'ailleurs dans le premier Nashid, c'est-à-dire les images cosmologiques qui donnent justement la force, qui situent l'être humain dans un tout cosmique. Donc ici, optimiste mon peuple malgré vos larmes qui coulent le soir et irriguent nos vallées et l'océan dont le bien est exploité par les pêcheurs, des pierres et des arbres là-bas dans notre Jérusalem. Alors là, on arrive à un troisième thème très important, c'est Jérusalem. Ça, c'est un thème qui est constant et permanent, aussi bien chez Al-Qaïda que chez Daesh. Et je crois que ça, c'est très très important, parce qu'on n'en tient pas assez compte. Fondamentalement, ces mouvements visent à libérer Jérusalem. Ça, c'est... et bien sûr, à unifier l'islam.
من رجسه لا تبق ديارا من الإلحاد قسما بمن أسرى بخير عباده وقضى بدائرة الفناء العادي.
C'est vrai, Philippe-Joseph Salazar, que la libération de Jérusalem, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié. On a tendance à dire que finalement, ça ne fait pas partie du projet politique de Daesh.
Oui, on a oublié, mais surtout, c'est un grand moment poétique de l'islam. Puisque le prophète s'envole pour la mosquée du Dôme, n'est-ce pas ? Et c'est un épisode un peu controversé, mais extrêmement poétique de la tradition islamique. Donc c'est pas seulement la destruction des Juifs qui ont refusé donc deux fois de se convertir à la vraie parole, d'abord à la parole christique et ensuite à la parole mahométane, mais c'était un grand moment poétique de la tradition. Je pense que Monsieur Lambert, vous êtes
oui, non seulement c'est un grand moment poétique. Mais il ne faut pas oublier que dans la genèse de l'islam, les premiers musulmans priaient vers Jérusalem.
Exact.
Donc ça fait partie aussi d'un certain non-dit, disons, des musulmans pour eux-mêmes, puisqu'ensuite ils ont changé d'orientation et ils ont fait, en fait, de la Kaaba à la Mecque le centre des prières. Mais ce moment, disons, proto-islamique, on pourrait dire, était en fait très, très judaïque et très, très chrétien, et donc crypto-chrétien. Et donc, je pense que là, ce sont des espèces de choses refoulées qui reviennent un petit peu à la surface, avec naturellement, en même temps, les grands conflits géopolitiques.
Mais en même temps, ils se sont tournés vers la Kaaba parce que les images idolâtres. Le culte des images a été aboli. Donc c'est assez beau, n'est-ce pas ? Une
Bien
fois
sûr.
Que les images
Bien
sont
sûr.
Abolies, on peut prier pour de bon.
Tout à fait, tout à fait.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde, aujourd'hui avec cette question, la poésie du djihad dans cette série consacrée au pouvoir des mots. On est avec Philippe-Joseph Salazar et Jean Lambert. On va accueillir un nouvel invité qui est avec nous par téléphone depuis New York, c'est Bernard Haeckel. Bonjour Bernard Haeckel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, d'autant plus qu'il est très tôt chez vous ce matin à New York. Vous êtes directeur de l'Institut international d'études du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord à l'Université de Princeton. Ce qui est intéressant dans la production poétique des djihadistes, c'est qu'elle est à destination des islamistes eux-mêmes et pas à destination de l'Occident, à l'instar des communiqués de revendication dont on parle beaucoup, de ces clips audiovisuels dont on répète combien l'esthétique est calquée sur l'esthétique occidentale. La poésie, c'est d'une certaine manière de la propagande interne, ce qui la rend évidemment unique et très intéressante à observer. On a beaucoup comparé, Bernard Haeckel, le djihadisme aux mouvements nihilistes et aux organisations anarchistes terroristes russes de la fin du 19e. C'est une comparaison qui a des limites si on considère que finalement, c'est aussi la culture, on en parle depuis tout à l'heure avec Philippe-Joseph Salazar et Jean Lambert, c'est aussi la culture qui mène au djihad et pas forcément, en tout cas pas seulement, la violence, l'absence de sens, l'absence de culture. Bernard Haeckel.
Oui. Tout à fait. La poésie montre que ce mouvement djihadiste a une culture, ce qui choque beaucoup d'Américains d'ailleurs, et qu'ils ont un projet politique qui est très bien défini à travers cette poésie, et que ce projet n'est pas du tout nihiliste d'ailleurs. C'est un projet d'optimisme et de recréer, de refonder le caractère islamique, la personne islamique, pour un État qui va en fait pas seulement dominer le monde, mais qui va rendre aux musulmans la puissance qu'il a autrefois eue au début de l'islam, dans les premiers siècles de l'islam. Donc c'est vraiment un projet qui est très bien défini dans la poésie, et on trouve que à travers la poésie, c'est les djihadistes qui se parlent entre eux et qui parlent à d'autres musulmans pour les attirer vers ce projet.
Oui, vous expliquez que cette poésie, c'est un vecteur de socialisation. On se retrouve en groupe, on récite des vers, on chante des anachides. C'est vraiment un objet de socialisation, cette poésie.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et il faut participer dans cette pour faire partie du mouvement. Il faut vraiment apprécier, participer. Et c'est pas seulement les poètes sont pas des poètes professionnels. Hein, c'est beaucoup d'entre eux, c'est des amateurs qui créent cette poésie. Et ce qui est très intéressant, c'est que même les étrangers parmi les djihadistes, c'est-à-dire les Européens ou les gens du Tchétchène, etc., sont en train aussi eux de d'écrire une poésie dans leur langue, mais qui imite un peu les thèmes, les images de la poésie arabe.
Vous dites, on l'entend Bernard Haeckel, que finalement cette poésie, c'est en tout cas un des ciments par lequel le mouvement tire sa cohérence, tire sa cohésion. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que sans la poésie, le groupe de l'État islamique ne serait pas en capacité de conduire son projet religieux et politique ?
La poésie est très importante parce que c'est un élément d'authenticité, hein, parce que le mouvement est toujours en train de produire une image d'authenticité de l'individu et du mouvement. La poésie joue un rôle très important pour cette production d'authenticité. Sans elle, je crois que le mouvement aurait beaucoup de problèmes à se construire d'une manière qui se présente comme islamique.
Vous restez avec nous, Bernard Haeckel. Je vais faire réagir nos invités ici en plateau, mais vous restez avec nous. Philippe-Joseph Salazar, réaction. Je vous vois lever le doigt.
Oui, j'ai levé le doigt comme à l'école, n'est-ce pas ?
N'est-ce pas ?
C'est le terme de poésie qui commence à me gêner. Je crois que c'est en partie une projection occidentale. Je ne pense pas que les combattants sur le terrain qui comprennent bien l'arabe et qui chantent ces champs de guerre en arabe, ou bien les combattants étrangers qui annonnent l'arabe et qui essaient parfois de le mettre dans une langue vernaculaire, de mettre ces chants dans une langue vernaculaire, pensent que c'est de la poésie.
Mais comment la définissent-ils?
Je pense qu'ils ne la définissent pas comme poésie, ils la définissent comme de l'élocution de combat, comme un geste théologique. Ce serait comme dire qu'aller réciter le rosaire, c'est de la poésie. Évidemment, toutes les prières de l'Église, ce sont des poèmes. Mais demander à un catholique ou à un protestant, un orthodoxe, si ces prières sont de la poésie, non, c'est quasiment anathème de dire cela. C'est un blasphème. Donc, à mon avis, faisons très attention. C'est une perception que peut-être nous projetons,
Perception occidentale.
C'est une projection, ou occidentale, ou matérialiste, je dirais.
Jean Lambert, vous avez la même difficulté avec ce terme poésie qui n'est peut-être pas
absolument
approprié.
On a le même problème avec le mot musique, et une grande partie des raisons pour laquelle on entend toujours ces prêcheurs combattre la musique, c'est tout simplement parce qu'on parle pas de la même chose, et que pour eux, la musique, c'est lié à une société totalement athée, finalement, séparée de Dieu ou du divin, du surnaturel. Or, pour eux, naturellement, toutes leurs actions sont, soumises à la prédominance ou au contrôle de la surnature de Dieu. Et donc, évidemment, ça n'est pas ni de la poésie ni de la musique, c'est des invocations, des prières, des actions de grâce, etc. etc. Enfin, il faudrait trouver des termes plus appropriés.
Parce que là, je pense que le théâtre est également condamné, parce que dès qu'on dit poésie, théâtre, musique, on établit une distance entre l'objet transcendant et soi-même. Je vous rappelle qu'au XVIIe siècle, l'Église catholique avait exactement le même problème avec le théâtre, avec la musique. Un problème qui n'est toujours pas entièrement résolu, d'ailleurs.
Bernard Haeckel, sur le pouvoir d'attraction de... Alors, pardonnez-moi, je vais garder le terme poésie, Philippe-Joseph Salazar, je ne sais pas lequel utiliser, mais...
C'est un terme dont nous devons l'employer.
La chercheuse américaine Elizabeth Kendall, Bernard Haeckel, s'est intéressée aux techniques de recrutement de Daesh, et elle dit à propos de la poésie, le pouvoir qu'a la poésie pour influer sur le lecteur ou le spectateur arabe, pour infiltrer la psyché et créer une aura de tradition, d'authenticité et de légitimité autour de l'idéologie qu'elle évoque, en fait une arme redoutable pour les causes djihadistes. Concrètement, quelle est l'efficacité de ces poèmes dans cet objectif de recrutement, Bernard Haeckel?
Je vais vous donner un exemple. Il y a une femme, une femme syrienne, qui maintenant a le nom Ahlam al-Nasr, qui a pris ce nom, ce qui veut dire Ahlam, c'est les rêves de victoire, et son nom. C'est une femme qui a à peu près 22 ans, qui s'appelle la poétesse de l'État islamique, de Daesh. Elle a écrit beaucoup de poèmes, et ces poèmes ont été reliés et publiés sur Internet. Et à travers ces poèmes, elle décrit pas seulement l'idéologie de l'État, elle produit une propagande pour l'État et pour le calife, mais aussi elle est devenue une idéologue du mouvement. Donc elle a commencé à écrire aussi des traités de droit et de théologie. Donc à travers la poésie, elle a pu vraiment atteindre un niveau et un statut assez important et remarquable, et pour une femme surtout, dans ce mouvement. Et ces poèmes sont très 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 importants, elles sont très répandues, il y a pas mal d'anachites qui sont basés sur ces poèmes, et on retrouve beaucoup de combattants en train de réciter ces poèmes, et elle n'a aucun problème, d'ailleurs il n'y a aucun problème qu'elle soit une poète, qu'elle s'appelle la poétesse du mouvement, c'est vraiment un phénomène assez intéressant et aussi en même temps assez nouveau. Donc il faut pas croire que parce qu'ils utilisent la rhétorique classique ou parce qu'ils utilisent des formats traditionnels que c'est des gens comme les musulmans l'étaient dans les premiers siècles. Ça c'est vraiment une production du mouvement, d'authenticité, mais qu'il ne faut pas vraiment croire que c'est de l'authentique. D'ailleurs, il y a beaucoup de nouveau dans ce mouvement.
Écoutons,
et dans ses formes.
Écoutons justement ce que donne un nashid de cette poétesse de Daesh, Alam al-Nasser. Écoutez.
عز الإسلام لقد عاد حيوا يا قوم الأسادة وتعالوا نبني دولتنا ونعيد لدين الأمجاد عز الإسلام لقد عاد حيوا يا قوم الأسادة وتعالوا نبني دولتنا ونعيد لدين الأمجاد
رايات الدين. Voilà donc un hashim d'Alam al-Nasser, la poétesse de Daesh, comme on l'appelle, qui est auteur d'un recueil d'une centaine, 107 exactement, poèmes célébrant les victoires du califat, vantant les mérites de ses combattants, pleurant le sacrifice des martyrs. On sait assez peu de choses sur elle. On pense qu'elle est originaire de Damas, qu'elle s'est exilée dans un pays du Golfe avant de rejoindre les rangs de l'État islamique. Philippe-Joseph Salazar, compte tenu de la perception de ce que doit être la femme dans la tête des djihadistes, il n'y a pas de surprise à voir cette femme... Et voir surtout ces djihadistes finalement glorifier cette production intellectuelle, culturelle, poétique de cette femme, Philippe-Joseph Salazar.
Ce qu'a dit M. Ekel est très intéressant et correspond à ce que nous évoquions au début, c'est-à-dire qu'il y a la poésie, le jugement juridique, la réflexion historique et théologique forment un continuum dans la pensée arabo-musulmane. Un jugement poétique, du fait même de la nature du Coran et du statut de l'analogie, peut servir à un jugement juridique. C'est notre esprit occidental qui tend à compartimenter les choses, qui nous fait placer la poésie en dehors du droit. Et je crois qu'il est, pour Al-Nasser, c'est un simple continuum culturel. Du point de vue du rôle de la place de la femme, il y a aussi des femmes qui écrivent pour le califat de longs textes de prose. Ce n'est pas de la poésie au sens où nous l'entendons, mais ce sont des textes littéraires. Je crois qu'il faut étendre la notion de poésie ou de poétique à l'activité littéraire, l'activité littéraire en général. Je vous signale quand même que la fameuse université coranique de Fès a été fondée par une femme tout de même. Voilà.
Jean Lambert, réaction sur cette poétesse de Daesh.
Oui, il faut aussi dire que Ahlam Nasser, d'après ce que nous dit l'article de Bernard Ekel, qui est paru au New Yorker, a subi aussi, a connu la révolution contre Bachar el-Assad. Donc, il y a cet autre aspect aussi, je pense, qui a contribué à sa radicalisation, c'est-à-dire vraiment des événements
directement. Pourquoi dites-vous de radicalisation ? C'est un phénomène de conversion.
Oui, mais enfin, si vous voulez, en même temps, il y a eu vraiment des événements dramatiques qui ont radicalisé une partie de l'opposition syrienne. Donc ça, on le sait, ça a été documenté dans les années qui viennent de passer. Et donc elle fait partie aussi de ce mouvement-là.
Vous parlez, Bernard Ekel, de radicalisation ou de conversion, vous ?
Oui. C'est par exemple dans l'exemple d'Ahlam Nas, c'est une femme qui a vraiment vécu la violence de la révolution syrienne et qui a, et on le sait à travers ses poèmes, qu'elle a été vers le militantisme, vers la violence comme la seule réponse à l'autoritarisme et à cette brutalisation de la population syrienne et arabe par ces régimes autoritaires à travers tout ce monde.
Mais vous parlez de radicalisation, vous parlez de conversion à propos de cette femme.
Elle ne se voit pas comme une convertie. Hein. Elle a retrouvé la vérité de l'islam, mais la violence est devenue très importante dans son identité. Donc on peut dire non, elle s'est radicalisée plutôt.
Encore une question, Bernard Ekel, sur ce pouvoir attracteur de cette poésie. Est-ce qu'il y a des profils d'individus sur lesquels l'influence de cette poésie est plus forte ?
Je crois que les recrues qui cherchent l'authenticité, qui cherchent une identité islamique, qui est assez stéréotypée hein, dans leur tête, se retrouvent dans cette poésie. Parce que c'est une poésie qui se présente comme dont les éléments se prétend être l'authentique islamique, ce qui est vrai, ce que les vrais musulmans, comme les vrais musulmans du 7e et du 8e siècle étaient comme ça. Ils appréciaient la poésie, ils récitaient la poésie. Beaucoup d'entre eux étaient poètes. Donc il faut revenir à ce moment. Où les vrais apprécier ça, donc il faut maintenant aussi apprécier ça, il faut aussi participer dans ce genre de culture, de production culturelle.
J'ai une question autour de la question de l'autorité, Bernard Haeckel. On le disait, Oussama Ben Laden a écrit de la poésie en son temps. On le sait, aujourd'hui, le chef de l'État islamique s'adonne également à la poésie. Est-ce que pour écrire de la poésie, il faut avoir une certaine autorité, et est-ce qu'en retour, produire des vers vous confère de l'autorité?
Oui, oui, absolument, absolument. Ben Laden est insisté beaucoup là-dessus. D'ailleurs, on a parmi ses messages à quand il était en cachette au Pakistan, il demandait à ce qu'on lui envoie des livres sur la poésie arabe, la méthode de la poésie arabe. Donc il insistait là-dessus et il récitait ses poèmes et les poèmes d'autres toujours dans ses discours. Ça faisait partie d'une construction d'autorité très importante chez lui, et d'ailleurs qui lui a donné une position très importante que, par exemple, Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda aujourd'hui, n'a pas. Parce que Ayman al-Zawahiri n'a pas cette capacité de rhétorique que Ben Laden avait, et que Ben Laden avait surtout parce qu'il utilisait beaucoup la poésie.
Philippe Joseph Salazar, donc cette poésie, c'est un élément qui permet de construire son autorité et donc sa légitimité.
Je crois qu'il y a une confusion ici entre rhétorique et poétique. Écrire de la poésie n'est pas une dimension rhétorique. Ce qui est fascinant dans les discours très érudits de Ben Laden, d'abord ce qu'il écrivait, autant que je sais, dans un arabe de très haute volée, c'est la construction rhétorique des discours qui est à distinguer de la capacité à écrire des poésies. Donc je pense que là, il y a une confusion à ne pas commettre. Deuxièmement, pour revenir à radicalisation, je voudrais quand même faire remarquer que c'est un terme et un système qui a été inventé par l'État israélien lorsqu'il a été confronté il y a plus d'une dizaine d'années à de jeunes palestiniens israéliens qui devenaient des suicide bombers, n'est-ce pas ? Pour respecter véritablement, et c'est un des thèmes de mon livre « Paroles armées », pour respecter ce que fait l'État islamique, le califat, il faut lui respecter son vocabulaire. Et contrairement à ce que dit M. Haeckel, lorsqu'il rejoint l'État islamique, ce sont des phénomènes de conversion religieuse. D'ailleurs, tout l'effort de l'État islamique, c'est de persuader les musulmans qui vivent en terre de mécréance de se convertir, c'est-à-dire, strictement parlé, de se retourner vers l'État islamique et de se retourner vers la vraie foi.
Mais en l'occurrence, dans le cas de cette poétesse de Daesh, Alam al-Nasser, elle était déjà musulmane, elle était déjà pratiquante.
Peut-être.
Pourquoi parler de conversion ?
Parce que, si vous lisez les textes d'Octave, vous verrez qu'ils font, le califat fait des distinctions. Une des raisons de l'attaque contre Paris, c'était une attaque contre les musulmans qui vivent en France, qui vont regarder du football, qui vont ensuite boire une bière à une terrasse après le match, et donc sont de faux musulmans. Et qui s'enferme, comme l'a dit alors le communiqué et le commentaire qui est paru ensuite dans la revue en français d'Art et l'Islam, qui s'enferme dans la forteresse de l'incroyance. Et donc, la véritable émigration qu'ils ont à faire, c'est ce phénomène de conversion. C'était, probablement à ses propres yeux, elle n'était pas suffisamment musulmane. Donc, prenons garde au terme de radicalisation, c'est un terme occidental et matérialiste.
Jean Lambert, encore un mot.
Oui, alors moi je n'interviendrai pas sur ce débat-là parce que ça n'est pas du tout ma spécialité. En revanche,
vous n'êtes pas rhétoricien.
Non, vraiment pas.
En revanche,
sur la question de l'authenticité qui a été mentionnée par Bernard Haeckel, je crois que c'est très important d'en parler, tout en étant conscient de l'ambivalence ou la dualité de ce mot, qui peut vouloir dire donc l'authenticité par rapport à une tradition qui a été perdue ou des choses comme ça,
ou bien au contraire l'authenticité de la personne, de l'engagement, etc. Et sur ce plan-là, il faut souligner que justement les anachides mentionnent souvent le fait que la preuve que leur discours est authentique, mais là dans le sens sincère, et ils utilisent le mot sincère aussi, c'est naturellement les opérations suicides, c'est-à-dire les martyrs ont versé leur sang, donc vous voyez bien que c'est la preuve que notre mouvement a raison et qu'il va vers l'avant, quoi, etc.
Ça, Jean Lambert, c'est une musique yéménite que vous nous avez gentiment adressée. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités. Bernard Haeckel, je rappelle votre livre « L'Arabie Saoudite en transition, un aperçu des changements sociaux, politiques et économiques ». Et je vous remercie infiniment de vous être levé aux aurores pour nous, pour participer en direct à cette émission. Jean Lambert, un grand merci également. Vous vouliez ajouter...
Oui, je voulais juste dire que cet enregistrement que nous entendons est un enregistrement qui a été fait au Yémen en 1991, qui était à la gloire de Saddam Hussein et qui prêche le djihad déjà à l'époque en 91.
Et merci à vous, Philippe-Joseph Salazar. Je rappelle votre ouvrage « Paroles armées » aux éditions Le Mieux. Et je rappelle également que vous êtes professeur à l'Université du Cap. Un grand merci d'être passé dans nos studios.